D'accueillir aujourd'hui M. Henri Happy, qui donc est chercheur au sein de l'IEMN de l'Université Lille, l'Institut d'électronique, microélectronique et nanotechnologie. On va parler aujourd'hui de sujets très techniques, technologiques, voire scientifiques, notamment de ce projet flagship Graphène. Voilà des mots un peu complexes qu'on va essayer de décrypter en langage, on va dire en langage courant. Donc l'IEMN se penche bien sûr sur toutes les nouvelles technologies et notamment dans cette filière que vous avez développée autour de la thématique carbone. Donc, dans cette thématique carbone, on peut peut-être revenir aux sources de ces transistors que tout le monde connaît, hein, et de ces applications, mais aussi de voir en quoi ils sont limités et en quoi la technologie, la science peut amener des progrès qui permettent des évolutions intéressantes au point de vue technologique.
Ok, merci. Je vais essayer de vous parler ce soir donc, des projets type flagship. Et en ce qui concerne le graphène, tout au moins. Et donc, le graphène, c'est un nouveau matériau qui a pas mal de propriétés physiques et mécaniques et qui permet de développer de nouveaux dispositifs et s'applique dans de nombreux domaines. Donc, si je reviens sur les aspects transistors, aujourd'hui, on sait très bien que toutes nos composants électroniques sont réalisés à base de silicium, qui produit des choses merveilleuses. Et ce matériau suit régulièrement ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire qu'il faut réduire les dimensions pour améliorer les performances. Et dans cette réduction aux dimensions, il existe des matériaux qui sont naturellement très petits. C'est par exemple des nanotubes de carbone que l'on peut synthétiser à une échelle nanométrique. Et compte tenu des propriétés de transport de ces matériaux, on pense qu'ils pourront apporter de nouvelles choses dans cette thématique de composants pour la microélectronique.
Donc ces composants d'un type nouveau sont bien sûr plus performants. Tous ces processus vont être accélérés. C'est un peu le but visé.
C'est tout à fait le but visé parce que ces nouveaux matériaux ont des propriétés électroniques qui sont dans certains cas meilleures que le silicium actuel. Et donc l'enjeu de ces nouveaux matériaux, c'est de développer des applications, d'abord de démontrer expérimentalement que l'on retrouve ces propriétés physiques qui sont démontrées physiquement. La technologie passe par là, la technologie apporte des défauts, donc il faut maîtriser les technologies pour arriver à exploiter au mieux ces nouveaux matériaux.
Donc ces nouveaux matériaux, ils prennent quelle forme? J'ai vu qu'on maintenant on utilisait des matériaux qui pouvaient être plaqués sur des supports qui ne soient pas rigides, par exemple.
C'est tout à fait l'intérêt de ces matériaux. Donc, si je prends les nanotubes de carbone, on peut imaginer un tube extrêmement fin, dont le diamètre peut atteindre 1,5 nanomètre. C'est des dimensions peut-être très petites. À titre de comparaison, un cheveu fait à peu près 100 microns de diamètre. Donc, un nanomètre, c'est le millième du diamètre d'un cheveu. Donc, du fait qu'ils sont très petits, ils sont très souples également. Donc, on peut les tordre dans tous les sens sans qu'ils ne cassent, contrairement aux matériaux qui sont volumiques.
Donc, effectivement, on peut imaginer des applications très nouvelles et ces propriétés permettent de réaliser des objets et qui n'existent pas pour l'instant.
Et c'est justement sur ce type de dispositif que nous travaillons. Nous avons, par exemple, l'année dernière, fabriquer des transistors sur des supports plastiques. Donc, vous imaginez une feuille de papier. On peut fabriquer des transistors sur une feuille de papier qui se plie et qui continue à fonctionner malgré le fait que l'on on torde dans toutes les, de toutes les façons. Donc, des applications typiques, ce seront des dispositifs sur des supports souples. On peut imaginer des dispositifs faits sur des vêtements, sur... On n'a plus besoin forcément d'un substrat rigide de type silicium tel qu'on fait actuellement.
Le rêve de Salvador Dali va se réaliser, donc les montres molles, par exemple?
Tout à fait. Donc, dans le flagship Graphene, on peut retrouver sur Internet, on peut voir d'ailleurs des applications qui existent depuis longtemps. C'est le concept du morph, un téléphone qui se plie dans tous les sens, qui se transforme en bracelet. C'est des idées qui traînent sur Internet depuis 2008. Ces concepts-là, demain, pourront devenir réalité, en fait. Et ce serait les apports de ces nouveaux matériaux, faire des choses, des écrans flexibles, des supports que l'on plie. C'est...
Donc flexible, voire déformable, est-ce qu'on peut dire aussi incassable?
Justement, c'est des matériaux qui sont très, très résistants par rapport aux matériaux connus actuellement. Donc les résistances mécaniques sont très, très élevées. Ce qui fait qu'ils peuvent être même dans une certaine mesure étirables et sans casser. Et c'est tout l'intérêt de développer des circuits pour des applications autres que ce qui existe aujourd'hui.
On peut imaginer que ces applications soient durables également et transportées dans des lieux, pourquoi pas dans l'espace, éternellement, et qu'elles vivront leur vie avec les sources d'énergie qu'elles trouveront là-bas.
Pas tout à fait. En fait, les matériaux, c'est du carbone, c'est des atomes de carbone. Donc, le carbone, c'est ce qu'on trouve lorsqu'on parle du CO2, etc. Il y a du carbone. Donc, on va essayer de synthétiser. Ces matériaux sont synthétisés à partir des matériaux, des gaz carbonés. On récupère des atomes de carbone et c'est ces matériaux qui ont ces propriétés extraordinaires. Là.
Alors, c'est vrai que le carbone, c'est quelque chose qui est à la fois très connu, mais qui a une diversité de formes incroyables. Le diamant ou le graphite ou plein d'autres choses. C'est encore quelque chose qu'on découvre chaque jour.
Voilà, tout à fait. Et si je considère le graphène, c'est justement une forme de carbone bidimensionnelle, c'est-à-dire que c'est un matériau plan. Le graphite, c'est un empilement de ces couches-là. Le graphite est très, très mou. Quand vous écrivez avec un crayon de bois, parce qu'il ne faut pas chercher loin, le graphène, vous l'avez entre vos mains, c'est un crayon de bois. Quand vous écrivez, c'est les plans de graphite que vous étalez sur votre feuille. Donc, le graphite est très mou, mais si on isole un seul plan de ce matériau qui est le graphène, c'est un matériau constitué d'une couche d'atomes. Ce matériau en lui-même devient très, très rigide. Donc, à titre de comparaison, si on avait une surface, si on fabriquait un hamac en graphène, par exemple, d'une surface d'un mètre carré, il peut supporter le poids d'un chat, par exemple, sans casser. Donc, c'est des matériaux très, très résistants lorsqu'ils sont isolés en monocouche.
Alors, chacun maintenant a pratiquement son ordinateur, voire sa tablette. Est-ce qu'on peut imaginer des tablettes qui se plient, se replient, se mettent un peu partout et ne cassent pas, ne supportent les voyages sans problème?
Tout à fait. Et je pense qu'une des premières applications du graphène aujourd'hui, et qui sont d'ailleurs des démonstrateurs aujourd'hui, c'est des écrans tactiles. Simplement parce que c'est des matériaux très conducteurs, très transparents, donc on aura des écrans qui seront très, très lumineux. Et dans un autre futur proche, on essaiera de rendre toute la structure flexible. Et on pourra imaginer donc des matériaux que l'on tord, que l'on plie, et qui deviennent, je dirais, incassables pratiquement.
Donc, dans les sociétés technologiques qui travaillent sur la recherche et le développement, on imagine l'intérêt de ces nouveaux produits. Je suppose que dans certains pays comme la Corée ou la Chine ou d'autres, il y a beaucoup de sociétés qui investissent dans ces technologies. dans la recherche, donc.
Tout à fait. Je dirais que ces pays-là sont très en avance sur tout ce qui est affichage par rapport à l'Europe. C'est pour cela aussi que ces nouveaux projets existent pour essayer de développer des choses complémentaires par rapport à l'Asie. Et il faut savoir qu'au-delà de l'affichage, il y aura pas mal d'applications dans le domaine de l'automobile, de l'aviation, donc dans le domaine des matériaux composites. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect transistor applicatif, on aura de l'innovation dans tous les secteurs de la vie quotidienne.
Donc ça veut dire qu'il y a un positionnement particulier de cette recherche qui se fait dans votre laboratoire de l'IUMN par rapport au marché international ?
Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que la partie électronique, c'est une partie certes importante de ce projet-là, mais il y a tous les aspects matériaux, les aspects donc sur la santé, les aspects énergie, récupération, stockage de l'énergie, avec ces nouveaux matériaux qui sont très importants. C'est pour cela que ce type de projet... Ces projets sont très pluridisciplinaires. On a de la science fondamentale, on a de la science appliquée, on a des industriels. Et l'idée forte des projets flagship à long terme, c'est d'aller de la science fondamentale aux applications. Donc on trouvera des industriels comme Airbus, comme Nokia, comme les industries automobiles, par exemple, parce que demain, sur les voitures électriques, le poids, c'est quelque chose de très important. Si on réduit le poids des voitures avec des matériaux composites très résistants et légers, on pourra améliorer l'autonomie de ces véhicules. Et si on améliore les batteries, le stockage de l'énergie, donc tout cela, c'est un projet complet et cohérent qui converge vers l'innovation, en fait.
On a déjà fait une émission très récemment sur les véhicules électriques. Le problème, effectivement, c'était le poids des batteries. On peut imaginer de grosses évolutions dans ce domaine ?
Oui, dans le projet, donc l'aspect énergie est très important. Et comment améliorer le stockage, le rendement de ces batteries, ça fait partie de ce type de projet.
Donc on va rappeler ce projet flagship graphène. Alors graphène, on a expliqué autour de cette matière. Flagship, ça voudrait dire quoi pour vous ?
En fait, c'est des nouveaux projets. On appelle ça des FET, des Future Emerging Technologies, c'est-à-dire c'est l'Europe qui investit sur les technologies futures qui seront capables d'apporter de l'innovation dans différents secteurs. Et c'est la raison pour laquelle c'est des projets qui rassemblent à peu près 17 pays européens. Donc, les chiffres sont assez monstrueux. C'est 17 pays européens, 74 partenaires légaux, à peu près 136 groupes de recherche. Donc, on voit que c'est un panel assez grand pour aborder les différents aspects du problème.
Donc vous parlez d'un projet européen, voire international. Est-ce que ce projet a aussi une coordination européenne ?
La coordination européenne se fait aussi au niveau national. Donc au niveau de la France, par exemple, on a un coordinateur qui est ma collègue Annick Loiseau de l'ONERA, donc qui a mené pas mal de réunions parce que le projet n'est pas né en 15 jours. Ça fait depuis 18 mois à peu près, depuis 2010 qu'on y travaille et qu'on développe des consortiums, des associations pour être très efficaces.
Donc ces projets autour du carbone et des nanotubes donc de carbone, est-ce qu'on peut dire que c'est une révolution, ça vous l'avez dit. Est-ce que aussi c'est un grand espoir pour la région Nord-Pas-de-Calais ?
Moi je pense que c'est... On pourra trouver de nombreuses applications. Un des aspects de l'électronique flexible, c'est la possibilité de pouvoir fabriquer des transistors sans avoir besoin des grosses usines telles qu'elles sont connues actuellement. Donc l'idée, c'est par exemple d'utiliser des techniques d'impression, c'est-à-dire que le graphène se présente sous différentes formes. Il peut se présenter sous forme de solution. Donc on peut imaginer utiliser une imprimante pour faire des techniques d'impression d'une manière générale pour fabriquer de nouveaux dispositifs. Donc, je pense que on retrouvera les techniques d'imprimerie, par exemple. Donc, on pourra avoir des conversions, faire des choses relativement simples, basiques, avec de nouvelles technologies qui n'ont pas besoin de coûts d'installation très, très élevés.
Moins de grosses usines, ça veut peut-être dire aussi moins de pollution ?
On peut voir comme ça. Je ne suis pas spécialiste du domaine, donc je préfère ne pas m'avancer là-dessus.
Est-ce que dans ce domaine donc du carbone, qui est le vôtre, hein, les nanotubes de carbone, vous avez aussi un bilan carbone ?
Difficile à dire aujourd'hui. On aborde le problème côté recherche, donc on utilise des volumes très faibles. On est sur les parties démonstrateurs et pas sur un bilan au sens général. Donc difficile de répondre. Mais ce qui est certain, c'est que dans ce type d'études, maintenant, l'aspect environnemental est pris en compte également. Donc il y a des chercheurs environnementaux qui sont intégrés dès l'origine du projet et leur problématique, c'est de tenir compte de ces aspects-là.
Donc Henri Appy, on l'a dit, ce projet a été initié en 2004, ensuite il a été élargi en 2007 avec ses recherches autour du graphène. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans 4 ans, par exemple, comme nouveau développement ?
Alors, vous me posez une colle. Le flagship n'a pas démarré en 2004. Pour amener une précision, c'est mes travaux de recherche à proprement parler. Parce que j'ai démarré cette étude en 2004 sur des matériaux tels que les nanotubes. Et j'ai évolué vers le graphène parce que le graphène, c'est un matériau qui a été découvert en 2004. Donc, on est aujourd'hui en 2012, c'est des matériaux vraiment nouveaux. Dire ce qu'on atteindra d'ici 4 ans, si je prends mon domaine d'activité, c'est multiplier les performances par 2, par 3. C'est ce qu'on espère en ce qui nous concerne. Et aussi démontrer qu'avec des techniques d'impression, on peut fabriquer des systèmes viables sur une feuille de papier, sur un bout de carton, de plastique. Pour nous, ce serait quelque chose de motivant, c'est pouvoir fabriquer des choses, je dirais bas coût, on parlait de bilan carbone tout à l'heure, c'est fabriquer des choses avec des infrastructures légères.
On a toujours l'impression qu'il n'y a pas de limite à la science et aux évolutions technologiques dans ces domaines des nouvelles technologies. Chaque année, on change, moi je veux dire chaque année, tous les 3 ans, on change pratiquement de génération d'ordinateurs ou de choses qui servent à la vie quotidienne, des outils qui maintenant sont banalisés mais qui autrefois étaient très rares, très chers.
Je pense que c'est le charme de la recherche qu'on puisse découvrir de nouveaux matériaux tous les jours, que l'on puisse faire avancer les choses. Je pense que ce qu'il faut voir, on a l'impression que on change, les choses vont coulent de source. Derrière aujourd'hui, les téléphones, tous les objets quotidiens qu'on utilise, il y a des développements technologiques dont les utilisateurs ne s'imaginent pas. Donc, c'est des progrès énormes, fantastiques. Il faut dire que les technologies actuelles ont 60 ans d'âge, c'est le silicium, ça s'est amélioré pendant des décennies. Là, on démarre sur des matériaux qui n'ont même pas une décennie. Donc, par rapport à ce qu'on peut attendre, j'espère qu'on atteindra le degré de développement des matériaux actuels.
Voilà, donc ces matériaux-là ou ces technologies ne se situent pas vraiment dans une évolution, mais dans un courant parallèle qui a été inspiré de ces premiers.
Tout à fait. On espère, parce qu'on est au balbutiement, les résultats sont très prometteurs par rapport à ce qui est connu, et on espère avoir un développement exponentiel dans les années à venir.
Donc vous devez être très chouchouté finalement par rapport aux enjeux que vous exprimez.
Chouchouter, dans quel Ben, disons que ça fait toujours plaisir d'aller vers des domaines nouveaux et d'arriver à des résultats qui sont reconnus parce qu'on se lance un peu dans l'inconnu quelque part. Et je pense aussi que c'est le résultat de pas mal de travail avec des collègues. Je ne suis pas seul, je ne suis que la partie immergée de l'iceberg. On ne peut pas travailler tout seul dans ce domaine-là. On fait des rencontres lors des conférences, lors des séminaires, etc. Pour illustrer, par exemple, je travaille depuis 2004 avec mon collègue Vincent Déric du CEA à Orsay. On s'est rencontrés lors d'un séminaire. Il travaillait chez IBM sur les nanotubes de carbone. C'est un chimiste. Moi, je suis électronicien. Je voulais développer des choses. Il me manquait de la chimie. Lui, il était chimiste. Il ne savait pas sur quoi je travaillais. Donc, on a pu, sur un coin de table, essayer de se comprendre. Et depuis, on a fait de belles choses, de très belles choses. Donc, c'est des rencontres aussi. C'est ce qui fait le charme de la recherche. C'est qu'on rencontre des personnes avec qui on s'entend bien, on collabore très bien. Et puis après, c'est passionnant dans ce sens-là parce qu'on se lance dans l'inconnu et puis on découvre des choses nouvelles.
Voilà, donc les rencontres, c'est l'humain et la technologie, eh bien, c'est un travail en commun.
Hein, tout à fait.
Des perspectives incroyables. Qu'est-ce qui pourrait favoriser justement cette mise en relation des personnes par rapport à des projets communs ?
Alors, je pense que depuis un certain temps, il y a eu des fonctionnements de la recherche sous la forme d'appels à projets qui demandent à développer des projets de recherche avec d'autres groupes, avec d'autres équipes. Je pense que ça a contribué à développer des collaborations entre des groupes de recherche. Et ça n'a pas que des bons côtés, c'est pas ce que je veux dire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on rencontre des gens d'autres horizons, d'autres univers et on développe de nouvelles choses.
Le secret de ces bonnes rencontres, c'est aussi la passion à vous écouter.
La passion, l'écoute, l'envie de découvrir et puis l'envie de réaliser des idées qui au départ sont toujours parfois un peu farfelues au départ et qui au fil des ans deviennent réalité.
Bien. Bien, Henri Happy, donc bonne continuation. Merci d'être venu nous présenter ces projets.
Je vous remercie.